Alors c'est parfait. Bonjour à tous et bienvenue ici aux facultés Loyola Paris et bienvenue sur RCF pour cette deuxième conférence du cycle Quand la théologie rencontre le sport, une soirée organisée avec Holy Games. C'est la proposition de l'Église de France pour les Jeux Olympiques 2024. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, cet été Paris accueillera plus de 4000 athlètes en situation de handicap. Mais comment vivent-ils eux la devise des JO? Plus vite, plus haut, plus fort, leurs objectifs de performance sont-ils comparables à ceux des athlètes valides? Au-delà du résultat ou du record, de quoi témoigne le spectacle auquel nous allons assister? Comment des corps blessés, abîmés, meurtris, bousculent-ils nos conceptions du sport, du match, de la victoire et même de la consécration? Quelle réflexion théologique suscite les Jeux paralympiques? C'est ce dont nous allons parler avec nos invités ce soir. Je vais vous les présenter dans un instant, mais pour commencer, je laisse la parole pour un mot d'introduction à Mgr Philippe Marcet, qui est évêque auxiliaire de Paris.
Et évêque en charge de l'organisation pour l'Église catholique des Jeux Olympiques. Voilà, effectivement, ce soir, on va s'intéresser à un domaine qui nous préoccupe un peu tous, parce que nous sommes plutôt, nous, du côté des personnes en bonne santé. Mais surtout, on voulait pas laisser passer cet événement des Jeux Olympiques, événement mondial qui a lieu à Paris, sans réfléchir un petit peu à s'engager nous-mêmes, l'Église de France, auprès des structures des Jeux Olympiques, auprès des églises et des paroisses qui accueillent, auprès de personnes en précarité qui sont un peu délaissées dans Paris à l'occasion des JO. Donc c'est toute une facette de notre engagement. Et puis surtout, penser le sport comme un lieu aussi ou de spiritualité, un lieu de communion, un lieu de solidarité et même un lieu où tout le monde a le droit et a le droit de s'exprimer. Et donc ce soir, on va faire le deuxième volet sur trois ou quatre soirées qui vont avoir lieu. L'une a eu lieu au Bernardin sur la théologie du sport, le sport et la spiritualité. Une troisième aura lieu sur sport et communion. Et ce soir, sport et handicap. Merci à vous tous, merci à RCF de retransmettre ce débat et bonne soirée à tous.
Merci, Monseigneur. Alors, plus haut, plus vite, plus fort, on va en parler avec nos invités. Je vais vous les présenter. D'abord, Patrick Talhom, bonsoir. Vous êtes un sportif porteur de handicap. Vous pratiquez le rugby fauteuil et le développé couché. C'est de l'haltérophilie adaptée aux personnes handicapées. Je précise qu'en plus de cela, vous êtes diplômé dans un autre sport encore, la théologie pratique. On va y revenir. Avec nous ce soir également, Thierry Le Goisiou, qui est docteur en théologie morale. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général de l'ADAPI de la Nièvre. C'est l'association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales. Également avec nous, Talita Corman-Guittin. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes professeur de théologie pratique et titulaire de la chaire théologie pastorale, pédagogie religieuse et homiliétique à la faculté de théologie de l'Université de Fribourg. Et enfin, le père François Audinet, bonsoir. Vous êtes prêtre du diocèse du Havre, docteur en théologie, maître de conférence en théologie pratique au centre Sèvres, que dis-je, faculté Loyola Paris. Voilà, je crois que c'est un sport de présenter déjà nos invités. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec vous, Patrick Talhom. Vous êtes un peu l'expert du sujet de ce plateau sport et handicap, de par votre situation. Vous serez un peu notre fil rouge tout au long de cette soirée. Vous n'êtes pas né handicapé, votre histoire a basculé à l'âge de 26 ans et le sport a été votre salut.
Un magnifique salut. Tout à l'heure, je le disais encore avec Talita, on ne s'appelle pas, mais très souvent, il faut le reconnaître, on est appelé. Mais quand on est appelé, le challenge, c'est toujours de pouvoir écouter qui nous appelle et à quoi on est appelé. Mon fauteuil aujourd'hui, je le considère comme un lieu d'appel, un lieu de mission. C'est un peu déconcertant de le dire de cette manière, mais je crois que même si je n'ai pas choisi mon fauteuil, dans ce choix existentiel, il y a quelque chose de Dieu qui s'est dit. Étienne, c'est juste ce que vous avez dit tout à l'heure. Et si je peux me permettre de pouvoir justement être honoré d'être invité ici en ce soir. Je voudrais d'abord commencer par dire quelque chose de particulier. Merci à Talita qui m'a accompagné comme son étudiant à l'Université catholique de Lille et qui m'a dit encore pour cette rencontre quelque chose qui m'a traversé le cœur. Patrick, même avec ton fauteuil, tu as quelque chose à dire. Et c'est beau d'entendre cela.
Alors Patrick, il faudrait que vous nous racontiez votre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ce soir avec nous dans ce fauteuil?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ben, je commence toujours avec un peu d'humour. Mon fauteuil, je ne l'ai pas eu en promotion sur Amazon. Ce n'est non plus un cadeau de Noël qui m'a été offert par mes parents. C'est tout simplement l'histoire d'un adulte qui hier courait. C'était un jeune qui courait. Et à 26 ans, il y a eu l'inattention d'un chauffeur. Le véhicule a basculé dans un ravin et le verdict était clair et net. Paralysé à vie. C'est dur, hein? Quand à 26 ans, votre vie bascule. Vous êtes déjà un adulte. Donc ça veut dire que vous avez un certain nombre de réflexes. Et pourtant, dans ce basculement, il y a quelque chose de beau qui va se passer. Parce que le corps, hier, qui semblait être parfait, parce que je courais, je jouais au volley, j'étais même le capitaine de mon équipe. Je ne volais pas parce que je n'avais pas des ailes, mais je marchais, je courais. Et du jour au lendemain, tout va basculer. Je dois désormais réapprendre à redécouvrir mon corps. Mon esprit va devenir étranger dans ce corps, parce que mon esprit ne reconnaît plus ce corps. Lorsque vous me posez la question où se trouvent mes jambes, je ne sais pas où se trouvent mes jambes. Je me retrouve avec une double incontinence. Je me retrouve avec des douleurs d'une violence qui ne dit pas son nom. Et pourtant, c'est dans ce corps, une fois de plus, que je suis appelé à me réaliser.
Comment est-ce que le sport a participé à votre rédemption, on peut dire ?
Alors, comment le sport participe à ma rédemption? Je me permets de dire ici que le sport va venir dans une dimension, je dirais, trilogique. Pourquoi? Parce que très tôt, j'ai compris que je reste corps, âme, esprit. Et que mon corps physique, au-delà de toute chose, a besoin, même si les médecins me l'avaient déjà dit, Patrick, il serait important de faire beaucoup de kinésithérapie, parce que si vous voulez faire un transfert du lit au fauteuil, il faut un peu de muscle. Donc, quelque part, j'étais déjà invité à pouvoir pratiquer des exercices sur le plan physique. Mais le sport, au sens où je le fais d'une manière professionnelle, parce que je me suis engagé d'abord au développé couché, parce qu'au développé couché, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, c'était pour être face à moi-même. Donc, le sport est venu participer donc à redonner à mon corps sa place d'équilibre et dans l'unité de la personne que je suis.
C'est d'abord un lieu pour guérir, pour se soigner.
Il y a eu d'abord la dimension du lieu de guérison, mais ensuite il y a eu la dimension du lieu de réalisation de soi. Parce que mon fauteuil étant un lieu de mission, un lieu d'appel, il fallait rouler sur les routes du monde.
Alors, il y a le développé couché, ça c'est le sport face à soi-même. Il y a le développement, l'épanouissement personnel. Vous êtes aussi un sportif engagé dans une équipe de rugby fauteuil. Il faudrait nous dire d'ailleurs comment c'est possible et comment ça se passe, parce que c'est un sport où il y a des plaquages, un sport assez physique, parfois même violent. Et là, c'est la dimension un petit peu sport d'équipe dans laquelle vous réalisez en communion avec les autres.
Exactement, tout à fait. C'est très juste ce que vous êtes en train de dire là, Étienne. Je pratique deux sports. D'abord, un sport individuel. C'est bien, on est des êtres singuliers, il ne faut pas avoir peur de le dire. On est des êtres, chacune avait une capacité, chacune avait une magie, chacun avec un talent, avec un charisme. Alors pratiquer le développé couché, ça me permet d'être face à moi-même. Ça me permet de redécouvrir mes propres capacités. Ça me permet de connaître mes limites. Et pratiquer le rugby fauteuil, ça me permet de comprendre que seul je ne peux pas gagner. Il faut gagner avec les autres. Mais attention, il faudrait qu'on redéfinisse ce qu'on entend par le mot gagner. On reverra cela plus tard.
Alors, donc, le rugby fauteuil, c'est quoi exactement pour alors, le rugby fauteuil, mortel, là?
Le rugby fauteuil, c'est un sport qui est né au Canada dans les années 1977 parce que il y avait des joueurs de rugby qui s'étaient retrouvés tétraplégiques, c'est-à-dire les quatre membres complètement touchés. Et ils avaient besoin de continuer à pratiquer un sport qu'ils aimaient. Donc, ils ont inventé le rugby qui est un mélange de rugby fauteuil, qui est un mélange à la fois de hockey, de basket et on va dire de volley. Parce qu'on joue avec un ballon de volley, c'est 4 joueurs contre 4 joueurs, c'est 4 cartons de 8 minutes et on a 40 secondes pour traverser la ligne médiane pour pouvoir aller marquer dans le camp adverse. Il est strictement interdit de toucher le corps physique de l'autre joueur parce qu'on a affaire à des corps qui sont justement touchés et en
touchant physiquement, on peut créer encore des blessures. Donc, strictement interdit de toucher le corps physique, strictement interdit de taper le fauteuil en arrière parce que le risque, c'est de la chute et c'est de pouvoir créer une autre cervicale. Ce sont des fauteuils qui font pratiquement 20 kilos et qui demandent justement une grande capacité au niveau du cardio, comme on dit souvent, pour pouvoir rouler et tenir les 1h30 parfois de match. C'est très intense et quand vous voyez ces images à la télévision, vous avez envie de dire ben les contacts sont violents. Ben justement, la violence ici, ce n'est pas dans l'acte, c'est le son des fauteuils qui se rencontrent pour rencontrer qu'il y a de la vie qui jaillit et qu'il y a surtout de la joie qui peut être partagée dans le contact.
Alors pour le rugby fauteuil, en l'occurrence, là pour vous, c'est de se dire qu'on n'a rien sans les autres et que le sport.
On n'a rien sans les autres.
Aussi un lieu de communion.
On est véritablement dans ce que le pape François nous dit, tout est lié. Tout est lié parce que tout a un sens. Avec les autres, on est capable de prendre soin les uns des autres et de cette planète. Et là, au rugby fauteuil, c'est ça. Je ne peux pas marquer si je ne fais pas la passe à l'autre. C'est la même question de notre humanité.
Alors, on reparlera avec vous tout au long de cette soirée de. Voilà, de la manière avec laquelle justement vous vivez le sport, comment vous vivez le sport, comment vous vivez aussi cette devise plus vite, plus haut, plus fort dans le cadre de la création. On parlera aussi de l'identité du sportif handicapé aussi que vous êtes. Je voudrais qu'on continue avec vous, si vous voulez, Thierry Le Goisiou, qu'on puisse évoquer justement la manière dont vous percevez justement les fédérations sportives pour les personnes handicapées et ce qu'elles nous disent justement de notre perception du handicap dans le sport ou du sport dans le handicap.
Oui, merci Étienne. C'est toujours difficile, préalablement, avant la prise de parole, de passer après Patrick. Parce que son témoignage est tellement vivant, une telle puissance de vie, qu'on a simplement envie de l'écouter, admiratif, moi-même étant sportif, bon, dans d'autres domaines, triathlon et arts martiaux. Je fais aussi de la compétition, mais pas au même niveau que Patrick, et j'ai pas besoin d'avoir le même courage. Donc c'est toujours quelque chose qui touche au cœur et qui donne envie d'être imité. Merci en tout cas pour ce beau témoignage.
Merci.
Thierry, vous me disiez en préparant ce plateau que la rencontre du handicap est toujours décapante, que la rencontre de l'altérité, même dans le sport, peut faire peur.
Oui, alors il faut préciser que... Ce que je dis provient du lieu où j'exerce mon travail, en tant que manager et directeur général d'une association parentale qui accompagne des personnes en situation de handicap mental. Ma préoccupation quotidienne, c'est d'encadrer les équipes qui accompagnent des personnes vulnérables, qui sont des personnes déficientes intellectuelles, multi- ou polyhandicap, autisme, TSA, TND. Donc on est dans un monde du handicap qui n'est pas tout à fait celui de Patrick, même s'il y a des convergences, parce que le monde du handicap est aussi varié et divers que le monde tout court. Lorsque vous approchez la réalité du handicap mental, il y a effectivement une forme d'expérience troublante, on pourrait dire d'inquiétante étrangeté, qui projette sur vos représentations une perception différenciée. C'est-à-dire que ce que vous imaginez comprendre, en règle générale, tombe à côté.
Est-ce que ça signifie, cela pour rentrer un peu dans le vif de ce que vous étudiez, de ce que vous avez travaillé, est-ce que ça veut dire qu'il est légitime aujourd'hui ou intéressant ou nécessaire d'avoir justement des fédérations sportives différentes, adaptées et ne pas mettre tout le monde finalement dans les mêmes fédérations sportives à égalité, quoi?
Alors c'est le débat, la fédération, enfin il existe deux fédérations sportives françaises qui gèrent, on va dire, le monde du handicap. Il y a la Fédération française Handisport, qui regroupe à peu près 40 000 licenciés, et vous avez la Fédération française de sport adapté, qui en regroupe le double. Ces deux fédérations se distinguent par le type de handicap qu'elles fédèrent. La Fédération française Handisport s'adresse à des personnes handicapées sensoriellement, physiquement, mais non intellectuellement. Et la logique que promeut une telle fédération est une logique de la performance de l'homme augmenté. C'est-à-dire que la personne part avec un handicap, selon l'étymologie anglaise, handicap, avec une capacité moindre, mais doit être capable de la même façon qu'une personne qui part avec une capacité dite ordinaire, d'atteindre un niveau de performance. On est donc dans une logique de la compétition et du résultat. Au contraire de la Fédération française de sport adapté, qui, elle, se positionne beaucoup plus dans une approche du plaisir et de l'envie de pratiquer une activité sportive, quelle que soit sa forme de handicap. Et on n'est là pas du tout dans la même logique. Et si ces deux fédérations existent, malgré leur histoire tumultueuse où elles n'ont cessé de se rapprocher en essayant de fusionner, à chaque fois elles ont échoué parce qu'on ne s'adresse ni aux mêmes personnes et les objectifs ne sont pas non plus identiques.
Est-ce que vous interrogez justement le besoin de performance sportive pour les personnes handicapées? Est-ce que c'est intéressant selon vous de calquer justement la recherche de la performance dans les fédérations sportives pour les personnes handicapées de la même manière que dans les fédérations sportives pour les personnes valides?
Pour des personnes en déficience intellectuelle ou qui ont des problématiques multi-handicap, la notion de performance ne signifie rien. Ce qu'il revendique, c'est un droit à l'existence corporelle, même si le schéma corporel est tordu, nuancé, dégradé. Et elle revendique la possibilité d'exister dans la cité, quelle que soit leur capacité naturelle. Les personnes dans une situation d'handicap sensoriel revendiquent le droit d'un accès à la performance qui ne peut pas être laissé aux simples personnes valides ou aux simples sportifs valides. De ce point de vue-là, la logique et la revendication est entendable. Mais on ne peut pas réduire la question du sport et du rapport du corps au sport à une simple question de performance.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière le sport, il y a cet accomplissement. On revient à ce que disait aussi tout à l'heure Patrick, c'est-à-dire ce besoin de faire du sport pour s'accomplir, quoi, avant même d'aller chercher une performance.
Oui, s'accomplir avant même d'aller chercher une performance. Et sans doute les critères d'identité, d'analyse, d'évaluation de l'accomplissement ne sont pas les mêmes selon l'approche que l'on a du handicap et selon la personne qui pratique ce sport.
Est-ce que ça pénalise finalement la perception qu'on a du sport adapté aux personnes handicapées et qu'en fait, en allant regarder, parce qu'on là, on va voir et puis on en parlera justement de cette représentation, de cette démonstration, de cette manière de regarder le sport qui sera très médiatisé à l'occasion des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques 2024. Est-ce que ça veut dire que on essaie de normaliser le plus possible le handicap en le rapprochant le plus possible du sport tel qu'il est pratiqué par les valides?
Il y a certainement une dualité dans la représentation sportive entre une performance acceptable par une personne qui a un handicap de départ, mais qui est capable de le surmonter par son courage et par son entraînement, d'une personne qui a une déficience intellectuelle lourde, un autisme sévère, qui accédera au sport pour mettre en mouvement son corps pour un plaisir d'abord singulier et qui n'a pas nécessairement la logique de la performance en tête. Et souvent, on acclamera la personne handicapée parce qu'elle aura atteint un niveau de performance équivalent ou supérieur à une personne valide, alors qu'on se désintéressera ou on risque de se désintéresser de la personne déficiente intellectuelle qui ne pratiquera le sport que pour son propre plaisir.
Patrick Talhomme, est-ce que vous voulez réagir à cela?
Il y a quelque chose de très juste qui est dit par Thierry, parce que justement, d'une personne à l'autre, le handicap n'est pas identique, et ça peut influencer justement la vision qu'on a de la performance. Et il faut le reconnaître, je suis en situation de handicap aujourd'hui, et parfois, permettez-moi d'utiliser l'expression, quand je me retrouve avec des collègues en situation de handicap et qui n'ont pas forcément la même déficience que moi, parfois on n'a pas les mêmes regards, même sur la question de l'accessibilité. Parfois on doit plutôt je mets un accent sur la rampe pendant que l'autre il va mettre un accent plutôt sur l'audition, pendant que l'autre va mettre un accent plutôt sur son accompagnant, et tout ça va complètement modifier et va influencer la perception des notions. Donc les deux sont valables, et le véritable challenge, c'est ça, c'est comment arriver à trouver le juste milieu, ce qui est nécessaire pour chacun, pour son épanouissement et la réalisation de son être.
Thierry, peut-être sur ça justement, il y a quelque chose de l'esthétique du handicap qu'on pourrait interroger là, comme si dans ce qu'on va regarder, dans ce qu'on va voir, dans ce qu'on va acclamer, ce qu'on va applaudir comme étant une performance d'une personne handicapée qui se dépasse, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'esthétiser le handicap, de se réjouir finalement de ce handicap dépassé?
Oui, on pourrait imaginer une forme d'homme augmenté ou de transhumanisme qui s'adresse à la personne déficiente, une déficience que la technologie peut réduire, voire éradiquer, et qui permettrait de comparer un homme déficient au départ et de le ramener à une personne dite valide. Mais c'est une vision du monde qui est technocratique, qui fait appel à la technique, et qui, par cette technique, promeut une forme d'égalité. Et c'est une forme d'égalité qui, à mon sens, nie les véritables différences, puisqu'elle cherche à faire ressembler les personnes initialement invalides à des personnes valides.
Alors on a un exemple, on en a parlé ensemble, il y a un exemple qui est assez frappant. Il y avait un coureur handicapé qui s'appelait Pistorius, il était donc sud-africain, il avait plus de jambes, il avait été amputé des deux jambes, et pour courir il avait vraiment des prothèses extrêmement bien adaptées qui lui permettaient d'avoir des performances meilleures que des coureurs valides. Et ça évidemment ça a suscité beaucoup d'admiration. On en est presque arrivé à sublimer le handicap en disant « Regardez, il est handicapé, mais il a dépassé même des sportifs valides. »
Cette sublimation peut être lue comme une forme de duplicité. Parce qu'au final, on cherche à travestir une sorte de vérité qui consiste à ne pas vouloir accepter les choses telles qu'elles sont. Les différences sont têtues et chercher à les nier n'est jamais une solution.
On continue avec vous, Talita, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que dit la théologie du handicap? Qu'est-ce qu'on peut dire dans les études théologiques sur le handicap? Est-ce qu'on est là dans une opposition valide handicapé? Est-ce que justement on réduirait la personne handicapée à ce qu'elle est, à un manque par rapport à la personne valide, ou est-ce qu'on peut l'intégrer complètement à l'humanité? Qu'est-ce que dit la théologie?
Alors, qu'est-ce que dit la théologie? Je vous reprends, Étienne, la théologie ne dit pas grand-chose là-dessus, mais il y a des théologiens et théologiennes qui se identifient souvent comme des théologiens du handicap parce qu'ils regardent la réalité à travers la perspective du handicap. Et là, il y a peut-être des personnes qui disent des choses un petit peu nuancées.
Moi, on pourrait presque dire, d'ailleurs, qu'est-ce que dit le handicap à la théologie, alors?
Ben, j'allais le dire, mais vous me devancez. Oui, c'est exactement cela. Et alors, si vous me permettez, j'aimerais un petit peu rebondir sur ce que vient de dire Thierry, parce que, mine de rien, le parasport, c'est du spectacle et ça fascine. Qu'elle soit produite, d'ailleurs, par une personne valide ou une personne en situation de handicap, la performance fascine toujours. Et lorsque je contemple les parabasketteurs qui manipulent le fauteuil en même temps que le ballon et mettent des paniers, déjà mettre des paniers, que je trouve c'est incroyable, mais dans un fauteuil quand même, je commence quand même à me demander où est la limite, où est la déficience. Et je pense pas qu'il s'agit de dire que dans la performance, le para-athlète dépasse son handicap. Je pense qu'il ne s'agit pas de cela. Je ne sais pas si Patrick est d'accord avec cela, mais pour moi, ce n'est pas ça. À la fin du match, le para-basketteur, il est dans son fauteuil et le cécifouteur, il reste aveugle. Donc, je ne pense pas que la question est le dépassement de soi, ou pas simplement. J'ose quand même dire qu'il me semble que les para-athlètes tels qu'on les voit aujourd'hui, ils réussissent quand même à brouiller un peu une certaine norme de perfection valide. Et c'est pour moi en cela qu'ils viennent interroger les théologiens et théologiennes que nous sommes.
Alors, si on repart de la création, et de l'humanité créée par Dieu, est-ce qu'on peut envisager que Dieu, dans sa création, a pensé à créer des personnes avec un handicap?
Alors c'est évidemment très, très controversé et je ne suis pas dogmaticien. Mais pourtant, j'ose poser la question, est-ce que Adam et Ève auraient pu être des personnes handicapées? Alors, je vous rassure, Monseigneur, on n'en sait rien. Je veux vraiment questionner nos représentations du jardin d'Éden. Et force est de constater que dans notre imaginaire collectif, ce jardin est presque toujours illustré comme un endroit magnifique avec une végétation luxuriante, des biches, des girafes, des flamants roses, que sais-je, et en général quand même deux humains plutôt bien portants. Et alors je pense par exemple à l'Adam sur la voûte de la chapelle Sixtine, hein, quand même plutôt bien sculpté cet homme-là. J'avoue, j'ai scruté pendant mes recherches des dizaines et des dizaines d'images de jardin d'Éden et je n'y ai jamais trouvé d'araignée poilue. Et pourtant, quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'araignée poilue, il a dû la trouver belle, voire même bonne, hein, ça dépend comment on traduit le mot taube. Et voilà, ça me pose problème. Pourquoi est-ce qu'on la représente jamais? Étienne, vous allez peut-être me poser la question, et vous aurez raison, l'araignée, elle n'est peut-être pas conforme à nos canons de beauté occidentale, pour autant, elle n'est pas handicapée. Alors, puisque vous ne me posez pas la question, je me la pose moi-même.
J'en ai une autre derrière, rassurez-vous.
Je me suis posé la question, est-ce que quelqu'un comme Jack Ayers pourrait représenter Adam? Jack Ayers est para-athlète en aviron et il a une jambe en carbone et une autre jambe en chair et en os. Est-ce qu'il pourrait être utilisé, son image, est-ce qu'elle pourrait être utilisée pour représenter Adam? Ou est-ce qu'il n'y a que les mannequins qui peuvent être Adam et Ève? Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais des personnes, par exemple un couple trisomique, pour représenter Adam et Ève, ou un couple handivalide?
C'est là qu'intervient ma question, justement. Est-ce que on se fait une idée fausse de ce qu'est la perfection créée par Dieu dans le jardin d'Éden? Et est-ce qu'on peut même imaginer que dans le jardin d'Éden, il y avait des choses imparfaites et donc des personnes handicapées?
Eh bien, moi je trouve que c'est une excellente question, Étienne. Et j'ai posé cette même question ici, à la conférence des évêques de France, au service national de la catéchèse. J'ai été voir les gens en pédagogie spécialisée avec une photo justement d'une personne, d'un couple trisomique marié. Voilà, je leur ai demandé ici, est-ce que ce couple peut représenter Adam et Ève? Au service de la catéchèse, on m'a répondu non.
Pourquoi?
Et pourquoi? Ben, on m'a dit, parce que les personnes en situation de handicap n'auraient pas envie de se voir représentées dans le jardin d'Éden. Alors ça, j'ai trouvé ça un peu fort de confiture, parce qu'il y a quelque chose dans l'activisme, le militantisme du handicap qui dit « Nothing about us without us », rien de nous sans nous. Ouais. Patrick est d'accord. Merci. Eh ben, donc j'ai été demandé à des personnes en situation de handicap, avec des déficiences intellectuelles, est-ce que ce couple trisomique pourrait représenter Adam et Ève? Et il y avait une dame, elle s'appelait Béatrice, qui a regardé cette photo d'un couple trisomique et elle m'a dit, ils ont l'air de s'aimer, hein? J'ai dit, oui, puis ils sont mariés. Elle dit, c'est ça qui est important pour Dieu, non? Je dis, oui. Elle me dit, alors Talita, il est où ton problème? Et moi, je vous pose la question, il est où notre problème?
Alors, est-ce que il est où notre problème alors? Oui.
Ouais, voilà, il est où notre problème, hein? Alors vous allez peut-être vous dire, mais ça va faire quoi avec les Paralympiens? Parce qu'on est loin du sport là quand même. Hein? Mais c'est lié, tout est lié, comme disaient le pape François et Patrick tout à l'heure. Eh ben, je pense que les Paralympiens, comme tous les sportifs de haut niveau, hein, ils nous font rêver, mine de rien. Et je me dis, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé un monde où ces personnes, en situation de handicap ne seraient pas là pour nous faire rêver. Ces sportifs montrent que dans un environnement adapté, avec un accompagnement ajusté, ils sont capables, même s'ils sont handicapés, mais ils sont capables de performances incroyables. Les athlètes handicapés viennent brouiller les normes de la perfection valide. Car si avec un environnement ajusté, l'humain est capable de tels exploits, nous sommes en droit, attention, on va revenir à la création, nous sommes en droit de nous interroger sur la signification des injonctions du Dieu créateur lorsqu'il donne sa création aux humains.
Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « dominer, soumettre, cultiver, garder, préserver ». Est-ce que ça veut dire que même dans le jardin d'Éden, il fallait lutter et d'une certaine manière, on était déjà en difficulté, dans le jardin d'Éden, comme on peut l'être aujourd'hui et comme peut l'être une personne handicapée désormais?
Oui, je pense qu'il s'agit effectivement de cela. Cette image de plage paradisiaque où les arbres, les fruits tombent tout cuits de l'arbre, c'est un tout petit peu erroné. Les champs sémantiques en hébreu des verbes soumettre, dominer montrent bien une intention de lutte. Cultiver, garder, ça veut dire qu'il y a du travail, du labeur dans ce jardin. C'était pas une plage idyllique. Et c'est pas très étonnant puisqu'on est en Palestine et c'est un peu désertique quand même autour de la Palestine. Donc il me semble que ce travail demandé par Dieu sur un environnement qui nous est souvent hostile pour que tout un chacun puisse, on l'a dit tout à l'heure aussi, puisse s'y épanouir et puisse produire du fruit, puisse s'accomplir, est spécialement mis en exergue dans le parasport qui devient dès lors, si j'ose dire, paradigmatique pour la compréhension de notre juste place dans la création.
Alors, si on veut traduire, est-ce que ça veut dire que, justement, les adaptations nécessaires pour l'épanouissement de l'homme dans le jardin d'Éden peuvent être comparées aux adaptations nécessaires pour les sportifs handicapés pour atteindre des bonnes performances dans le parasport?
Ou pour s'y accomplir, en tout cas. Alors, je sais que c'est un peu osé, et que ce n'est pas la façon dont on regarde ce récit en général, mais je pense qu'il peut y avoir de cela. Oui, aujourd'hui, ce récit peut vouloir nous dire que nous devons mettre des rampes, par exemple, des ascenseurs, que nous devons mettre tout en place pour que tout un chacun puisse s'accomplir dans notre monde, puisse produire du fruit. Toute personne, et Patrick en est un exemple, mais toute personne est capable de porter du fruit. Et en tant qu'Église, nous avons le devoir d'accompagner et de permettre cela aussi.
Patrick Talhomme, est-ce que vous voulez réagir à cela et à ce regard, à cette analyse de ce qu'est le Jardin d'Éden comme peut-être modèle aussi pour les para-athlètes? Alors, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Est-ce qu'il faut dire para-athlètes, athlètes handicapés, athlètes en situation de handicap? Comment vous voulez qu'on appelle les sportifs en situation de handicap?
Alors là, une fois de plus, on va se retrouver dans la dualité, tout à l'heure que Thierry soulignait, parce que on va partir sur un vocabulaire qui est à la fois officiel, sur une perception individuelle. Moi, je reste dans la logique que je suis une personne en situation de handicap, et si je pratique un sport, je nomme directement ce sport. Maintenant, si je suis considéré comme un para, voilà, pour moi, c'est du vocabulaire. Le plus important, c'est comment je me perçois moi-même. C'est ça qui est plus important pour moi. Et si je reviens à la question telle que vous l'avez posée en partant du jardin d'Éden, il y a quelque chose de beau qui est dit, mais je vais me faire plutôt une lecture à partir de ce temps de carême. On a beaucoup fait des travaux, par exemple, sur le Vendredi Saint. Il y a la souffrance, il y a la difficulté, le corps et tout ça. Le Christ, il va être crucifié, il va recevoir une épine et tout ça. Ben, chacun d'entre nous reçoit une épine au quotidien. Et ensuite, le dimanche de Pâques avec la joie et autres. Et il y a le Samedi Saint. C'est le silence total. Et parfois, c'est un peu ça. Le jardin d'Éden me met dans un silence. Quand j'essaie de raisonner, quand j'essaie de réfléchir avec le peu de ce que je possède comme intelligence, j'ai l'impression qu'il y a un blocus qui s'installe. Et quand ce blocus s'installe,
je peux vous dire ici, Étienne, que c'est Ignace peut-être qui va peut-être m'éclairer parce qu'il m'a beaucoup aidé dans ma période de reconstruction. J'ai pris 10 ans pour me reconstruire quand mon corps a subi ce traumatisme. Et Ignace a été la clé à partir de l'exercice 21, je crois, principe et fondement, où il me pose la question, quel est le but de ma vie? C'est vrai, je n'irai pas poser la même question à tout le monde, mais peut-être Aristote, dans la lettre à Nicomaque, peut être intéressant avec la question du bonheur. Que veux-tu pour toi-même? Et en ce moment, donc, je partirai en disant, le jardin d'Eden me met dans un silence, parce qu'il y a quelque chose dont j'aurais du mal à dire, mais il y a une certitude que je sais, Dieu a créé ce corps que j'ai aujourd'hui, et même si j'ai subi un traumatisme qui est visible, parce que c'est le regard des autres parfois qui me fait prendre conscience que, comme Talita disait, que mon corps n'est plus dans la norme qu'il désire, mais au plus profond de moi, il y a quelque chose qui me dit, ce corps, il correspond à quelque chose du jardin d'Éden que je ne peux pas dessiner. Mais je sais que je ressens quelque chose, il y a de l'amour. Et c'est cet amour qui me donne de l'espérance et l'envie de me présenter devant vous ce soir tel que je suis. Et je vous laisse m'accueillir tel que vous le sentez en fonction de votre histoire.
Alors, s'il y a des artistes qui nous écoutent, je pense qu'on a besoin de nouvelles représentations du Jardin d'Éden avec peut-être comme modèle justement Patrick Talhom et d'autres sportifs justement en situation de handicap. Et ça nous amène justement à vous, Père François Audinet, sur la représentation justement du handisport. D'abord dans les médias, à la télévision, on va assister là à un spectacle incroyable. Hein, en France, c'est la première fois qu'on aura autant de matchs, de rencontres, d'épreuves sportives paralympiques à la télévision, avec justement peut-être beaucoup des questions qui se posent sur ben voilà, ce qu'on va montrer et ce qu'on cherche à montrer. Est-ce qu'on ne cherche pas là encore à idéaliser le handicap ou en tout cas à avoir un regard peut-être qui sublime le handicap? Peut-être un peu naïvement d'ailleurs, et qui laisserait penser que le handicap est facile, alors que il est peut-être, Patrick, vous le direz, mais c'est d'abord aussi un lieu de souffrance.
Tout à fait. Alors je me suis intéressé aux représentations médiatiques du handicap, donc du handisport, pardon, donc pas à la manière dont le vivent les athlètes, mais vraiment à la manière dont un spectateur comme moi, parce que moi je vais regarder à la télévision les Jeux paralympiques en fin d'été, et à la manière dont un spectateur comme moi peut percevoir cette performance. Et il me semble qu'il y a deux moments différents. Il y a avant la performance et pendant. Et avant la performance, souvent il y a des récits pour présenter les athlètes, pour que les téléspectateurs aient envie de regarder le moment où il y aura l'épreuve, etc. Et ces récits, souvent ils sont construits à partir de l'épreuve que constitue le handicap. On peut dire que c'est là que se noue le récit que font les journalistes qui montent un sujet. Je me suis surtout intéressé à la télé. Pour faire connaître l'athlète, bah, on raconte l'épreuve. Parfois, il y a un flashback avant l'épreuve, quand l'athlète n'est pas né avec un handicap, mais que c'est intervenu à la suite d'un accident ou d'une épreuve. Et puis, à partir de là, l'entraînement sportif apparaît comme autant de péripéties successives par lesquelles on passe. Et puis, vous savez que dans toute histoire, il y a un dénouement. Alors, dans ces présentations-là, le dénouement, on peut dire qu'il est suspendu. Il n'est pas tout à fait donné parce que le but de ces présentations, c'est de donner envie aux téléspectateurs de regarder l'épreuve. Donc le dénouement, ce sera l'épreuve. Est-ce qu'il va gagner? Mais il y a un autre dénouement. Souvent, il y a une espèce de petite voix dans le reportage qui nous chuchote que, en fait, il a déjà gagné. C'est-à-dire qu'il montre une forme de réconciliation de l'athlète avec son corps, une réconciliation de l'athlète avec son histoire aussi parfois, qui est assez impressionnante. Alors ce qui marque, c'est que ces récits, ils sont construits comme des récits de rédemption. Quand on les regarde avec un œil un peu théologique, c'est vraiment des récits de rédemption où on sous-entend, que ce qui arrive à ces athlètes, ça porte quelque chose de salvifique, un signe du salut, voilà, un signe de la réconciliation avec notre corps, on peut dire. Alors ça, c'est ce qui se passe avant. C'est un peu les reportages qui veulent donner envie de regarder l'épreuve. Et puis, il y a la manière dont l'épreuve est filmée. Et alors là, il me semble que les choses sont assez ambivalentes. Voilà, c'est pas très simple. Parce que, d'un côté, la manière dont la performance est filmée, elle montre des corps capables, et d'un autre côté, elle montre des corps combatifs. Ça, je crois que c'est vraiment deux choses assez extraordinaires. D'abord, montrer des corps capables, ça montre que les personnes ne sont pas réductibles à ce qui est arrivé à leur corps, mais qu'elles ont une liberté, elles ont une subjectivité, et qu'avec leur liberté, elles engagent leur corps. Voilà. Elles font quelque chose, on pourrait dire, avec leur corps. Et ça, ça me semble quelque chose de très beau qui est montré quand le handisport est représenté. C'est que vraiment, on ne voit pas juste quelqu'un qui est réduit à ce qui manque à son corps, mais bien au contraire, c'est sa liberté qui met en action son corps, qui est mise en avant.
Qu'est-ce qui est dit justement du corps abîmé, du corps meurtri, de la souffrance? Qu'est-ce qui est dit de ce corps, entre guillemets, diminué? Qu'est-ce qu'on en dit dans les médias justement? Comment est-ce qu'on présente ça? Parce qu'il y a aussi des artistes qui... et c'est vrai que c'est tout un art de faire du sport, mais il y a des sportifs qui sont abîmés. C'est impressionnant aussi de voir certaines épreuves sportives paralympiques. J'en ai vu qui m'ont assez bouleversé parce que c'était des personnes abîmées. Qu'est-ce qu'on en dit médiatiquement?
Alors c'est là où je parlais d'une ambivalence. C'est que on peut très bien se laisser fasciner par la performance, par la force intérieure de cette personne, non seulement bien sûr sa force physique dans l'épreuve, mais la force intérieure de cette personne, la liberté, la détermination qu'elle met en œuvre. Et puis alors, ça met complètement de côté la vulnérabilité que cause le handicap. Ça met complètement de côté, encore une fois, pas dans l'esprit des athlètes, mais dans la manière dont les choses sont représentées, on met en valeur seulement la force qui est mise en œuvre à ce moment-là.
J'ai encore une dernière question et puis après, Patrick, vous pourrez réagir. Quand on regarde une épreuve sportive, on a tous envie de ressembler à Kylian Mbappé ou à je ne sais quel grand basketteur connu. Est-ce que présenter comme ça le sport et les épreuves paralympiques, ça peut permettre justement à des jeunes en situation de handicap d'avoir envie de devenir Patrick Talhomme?
Alors ça, c'est toute la question. Là aussi, je dirais que les choses peuvent être ambivalentes. Il y a en plus de la liberté un aspect de combativité. Et souvent, on peut dire que l'épreuve sportive, elle représente un peu une métaphore de ce que vit la personne en situation de handicap dans toute son existence. Parce qu'il y a une dimension de combat, de lutte permanente qu'on a entendu, je crois, dans ce que Patrick nous a dit tout à l'heure. Et donc, cette combativité, elle est mise en avant dans l'épreuve. Et là, il y a certainement quelque chose qui peut encourager d'autres et qui est significatif aussi pour des spectateurs valides, comme moi, je peux l'être. En revanche, on peut se demander, c'est toujours la question quand il y a une forme d'héroïsation. Quand quelqu'un est montré comme réussissant quelque chose d'extraordinaire, eh ben, en quoi est-ce que il entraîne d'autres derrière lui? Et, ou derrière elle d'ailleurs. Et là, je dirais, la question c'est est-ce que les récits médiatiques arrivent à montrer les liens humains dans lesquels l'athlète est inséré? C'est-à-dire arrive à montrer non pas l'héroïsation de la performance, c'est formidable que cette personne réussisse ceci, mais arrive à montrer tout le réseau de relations qui conduit à ce qui est ceci, et dans lequel bien d'autres personnes évidemment sont impliquées. Ça me semble un point très important, ce côté collectif de la performance.
En particulier pour les sports où on a besoin, par exemple pour faire du vélo, c'est en tandem quand on est non-voyant, ou il y a un guide quand c'est des sports qui nécessitent de bien voir. Patrick Talhomme, vous voulez réagir?
Je suis très content parce que François, il a justement complété sur l'aspect sur lequel je voulais venir. Et deux choses, c'est que très souvent, ce côté médiatique, c'est très bien. Pour moi, c'est un premier degré parce que ça permet justement de pouvoir permettre que nous prenions conscience que la figure de la personne en situation de handicap permet de voir que nous avons une fragilité, une vulnérabilité commune. Et ça permet encore, dans un monde de consumérisme, dans un monde où on va trop vite, de pouvoir retourner à l'essentiel, c'est qu'est-ce que l'humain aujourd'hui et qu'est-ce que la relation de fraternité que nous entretenons. Et je voulais justement ajouter quelque chose sur la dimension médiatique. Il y a ce côté héroïque qui est dit, on voudrait, il y a une mise en scène qui est mise pour que justement les gens s'intéressent. Mais si vous permettez, c'est que à côté de ça, si on décide de vous faire voir l'arrière-plan, ça veut dire tout ce qui se cache derrière cette préparation, par exemple une sonde qui va apparaître, là les gens ils sont plus très d'accord, ils se sentent très mal à l'aise. Je ne nommerai pas ici sur ce plateau une personne en situation de handicap que je connais très bien, qui est un grand conférencier et qui un jour en pleine conférence, à un moment, il a eu la salive qui s'est mise à couler, mais j'ai senti qu'il y avait une malaise dans la salle en se disant aïe 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 aïe.
Il y a le handicap qu'on est capable d'accepter, de regarder, et puis il y a celui qui est moins regardable.
C'est ça. Donc il y a ce côté performance héroïque qui est mis, et pourtant justement le handicap, et c'est ça qui est peut-être beau quand Talita retournait dans le livre de la Genèse pour montrer justement que nous sommes créés à l'image, à la ressemblance, montrer qu'aujourd'hui le handicap peut justement être une sorte de choc qui nous permet de prendre conscience en se disant « Mais c'est vrai, nous sommes tous des humains fragiles et vulnérables, mais des humains capables d'eux.
Thierry Le Goisieux, je voudrais que vous réagissiez sur cette notion-là. Est-ce que la victoire déjà, au-delà de la performance, au-delà du record, est-ce que la victoire, c'est être capable de voir ça, de voir le handicap, d'accepter pour nous téléspectateurs que ça existe, et finalement c'est ça la vertu principale, au-delà de tout ce qui peut être politique ou de ce qui peut diviser dans le monde du handicap, est-ce que la victoire elle est là aussi dans notre capacité à enfin regarder que dans notre monde il y a des gens qui souffrent?
Oui, la victoire elle est certainement de dépasser des représentations sociétales qui sont figées et qui se veulent rassurantes pour une forme de narcissisme qui est souvent inquiété parce qu'il ne comprend pas. Et en règle générale, le handicap, c'est quelque chose qui fait peur dans sa première approche parce que c'est à la fois une peur de la différence, cette différence heurte, et c'est aussi une crainte de la ressemblance parce qu'on sent bien qu'en tant que partageant la même planète et habitant la même maison commune, on a quelque chose en commun. Et ce commun, quelquefois, effraie. Comme l'a dit Patrick, et c'est avec des guillemets, la monstration du handicap ou du sportif handicapé est une monstration propre, c'est-à-dire esthétisée, qui est comparable à celle de n'importe quel sportif, il y a une acceptation très forte et même supérieure à celle que l'on peut donner à un sportif valide. Mais lorsque le sportif en situation de handicap se met à baver, se met à crier, se met à se tordre, part dans la mauvaise direction, insulte l'arbitre, tape ses collègues, toute réalité quotidienne du monde du handicap mental, là on est beaucoup moins tolérant et la notion d'acceptation commence à reculer parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tout à fait conforme aux représentations sociétales que nous avions.
Talita.
Mille et une choses, je voudrais juste rebondir, Étienne, sur un mot que vous avez dit. Là, je pense qu'on est à au moins six fois déjà, c'est le mot souffrance. Et je suis quand même étonnée qu'on en ait encore à vouloir cantonner le handicap à la souffrance. Alors, je ne veux pas la nier et je sais très bien que Thierry, il est confronté très souvent à cela, mais je voudrais quand même dire que pour une majorité des gens handicapés que j'ai rencontrés, ils ne veulent pas que leur vie soit équiparée à un lieu de souffrance. Patrick a dit son fauteuil, c'est un lieu d'appel. J'ai rencontré une dame qui m'a dit « Mon fauteuil, c'est le symbole de ma liberté. » Et vouloir réduire, je suis désolée Étienne, mais la vie des personnes en situation de handicap à des vies de souffrance, c'est juste faux. Je ne peux pas le dire autrement. Alors, je redonne la parole à Patrick pour dire que peut-être qu'il va dire « Si, c'est un lieu de souffrance et donc, du coup, je dois me retirer. » Mais j'en doute fort quand je le vois rire à côté de moi.
Est-ce que, est-ce que, justement, la représentation que les personnes valides ont du handicap, c'est justement la souffrance, alors que la personne handicapée, elle a appris à vivre avec ce handicap qui n'est plus une souffrance, mais la souffrance est passée par là peut-être parce que vous avez eu un accident, parce que vous avez souffert et que vous êtes devenu handicapé de cette manière-là, parce que aussi, même une personne qui est née handicapée, même si elle ne souffre pas dans son corps, le regard des autres sur elle peut créer la souffrance. La souffrance, elle existe quand même, même si, et c'est vrai, vous avez l'air en pleine forme.
Effectivement, comment dire, vu de l'extérieur, tout va bien. Tout va bien. Oui, Talita parlait de cette question de la souffrance, et tiens, on revient dessus. Je veux mettre en souffrance, par exemple, avec un autre vocabulaire, aider. Beaucoup de personnes en situation de handicap ont du mal. Ils disent souvent, non, j'ai pas besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on me rende parfois autonome, ou bien je suis capable de. Justement parce que, à cause d'un certain nombre de stéréotypes hein, qui s'est construit au fil des années, en cause de ce malaise aussi de l'évolution du regard social, parfois on n'a pas eu le courage de regarder. Permettez-moi, Étienne, si vous m'accordez une minute. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, c'est bien de regarder mon fauteuil, Mais si vous voulez qu'on puisse regarder les choses d'une manière équitable, je dirais, mon fauteuil est peut-être un aspect de ce qu'on appelle ma souffrance, mais toi aussi, tu as une souffrance. Ton handicap, il est parfois invisible. C'est des problèmes affectifs que je ne vois pas. C'est ce cancer qui te ronge. C'est des problèmes économiques. Ça veut dire qu'un handicap social sur le plan financier. Tu as quelque chose qui te coupe de la joie. Donc, la souffrance et la joie, c'est l'apanage de tout le monde. Et nous avons, et ça je peux le dire à mon nom personnel et au nom de beaucoup de personnes en situation de handicap, du mal quand parfois il y a cette dimension qui est assez réducteur où on va se dire, s'il y a souffrance, il y a fauteuil. Je ne veux pas vous mentir. Je suis dans la joie. J'ai envie de crier dans cette salle, mais je préfère respecter vos oreilles. Et je sais pas. Oui, ça fait Franck tout à l'heure que j'ai rigolé quand je suis arrivé. Et la question, c'était de savoir, est-ce que tu n'as pas envie de marcher? J'ai dit non, j'ai pas envie de marcher, quoi. Quoi? Non. Si je marche, je vais gâter mes baskets. Non, j'ai pas envie. Moi, mes baskets, c'est un peu de la déco parce que je marche pas, j'ai pas de problème de truc. Vous devez marcher sur le soleil. Et moi, je fais mon fauteuil, ça roule comme ça, ça déplace. J'ai réussi à créer mon bonheur sur mon fauteuil, non pas en ignorant la souffrance, je ne suis pas dans une dimension doloriste, hein. Jean-Paul II, il a si bien dit, mais la souffrance, pour moi, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. Et je chute en disant ceci, c'est pour ça que j'ai cité Ignace tout à l'heure, quand il dit, je ne cherche ni honneur, ni argent, je ne cherche ni la vie, ni la mort, je ne cherche ni grandeur, et de la même manière, je ne cherche pas à marcher, ou bien je ne cherche pas à être assis, je cherche à être heureux en me tournant vers le Seigneur et bien évidemment en prenant un bon café comme on l'a fait tout à l'heure, ça m'a fait plaisir.
Très bien. François Audinet, on va revenir un instant quand même à la théologie et quand même au corps torturé du Christ. On évoquait la souffrance, on n'est pas nécessairement obligé de revenir sur ce terme-là, mais malgré tout, les chrétiens croient en un Dieu qui est mort sur une croix, son corps torturé, certes il est ressuscité, et désormais, il ne souffre plus. Il a souffert une bonne fois pour toutes, pour tout le monde, justement. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le handisport quelque chose d'analogique à cette souffrance, quoi, finalement, et de cette participation au corps torturé du Christ, si on veut le voir sur le plan théologique?
Alors moi, je répondrai à partir de ce qu'on peut en voir, donc à nouveau comme spectateur, pas à partir de l'expérience des athlètes. Il me semble que un bon critère pour juger notre manière de regarder le handisport tel qu'il va nous être montré, en fait, c'est l'Eucharistie, pour en juger théologiquement. C'est-à-dire que dans l'Eucharistie, nous célébrons le fait que nous sommes rassemblés, nous sommes réunis par le Christ qui, en effet, est blessé, profondément blessé, vient avec son corps blessé, si on veut, et il se montre comme ressuscité quand on célèbre l'Eucharistie, en tant qu'il nous rassemble, précisément. Alors Joseph Wrzesinski, qui est un prêtre français qui a beaucoup travaillé dans le monde de la misère, disait que dans l'Eucharistie, la misère, il parlait des corps mutilés et des corps dont l'esprit est blessé, que ces corps-là nous sont donnés en partage. C'est-à-dire, c'est pas juste que l'Eucharistie nous fait nous en souvenir, mais qu'ils nous sont donnés en partage. Alors ça, je pense que c'est une bonne question pour les spectateurs que nous serons sans doute, pour beaucoup d'entre nous, c'est en quoi est-ce que ce que vivent les athlètes paralympiques, ceux que nous allons regarder, en quoi est-ce que ça nous donne en partage leur expérience du handicap, c'est-à-dire à la fois une expérience de souffrance, comme celle du Christ crucifié, à la fois une expérience de joie, de bonheur, d'alliance avec d'autres, comme celle du Christ ressuscité qui rassemble les siens. Voilà, l'Eucharistie, elle réussit ce qui est un peu impossible, c'est de nous donner une expérience commune de la corporéité. Alors que notre expérience du corps, c'est très très personnel. Mais en même temps, elle nous donne l'expérience d'appartenir à un corps commun. Et bien, je pense que si notre manière de regarder, et j'ose le dire pour les journalistes, si leur manière de montrer concourt à cet impossible, mais en tout cas concourt à s'en approcher, à nous faire sentir combien nous appartenons à un corps commun et combien nous sommes appelés à travailler à la construction d'un corps commun, alors là, on n'aura pas regardé les Jeux paralympiques pour rien.
Donc ça passe par éviter de magnifier quand même ce handicap.
Ça passe par éviter de le magnifier, tout en prenant conscience que dans cette alliance de grande vulnérabilité et de grande force, il y a une source d'unité et de rassemblement pour bien d'autres.
Comment vous réagissez à ça, Talita?
Merci François de faire entrer l'Eucharistie dans notre réflexion, parce que je pense que c'est très important. Et je trouve l'idée c'est pas une idée. Au moment où le prêtre que vous êtes, vous élevez l'hostie, le rompu après la prière eucharistique, ça montre quelque chose de ce Dieu crucifié qui vient rejoindre chacun de nous dans nos vulnérabilités, nos fragilités, nos blessures. Et je trouve très très beau à chaque fois que ce pain rompu est montré à laquelle nous communions, de nous dire que Dieu nous rejoint, qu'on soit en situation de handicap ou pas, dans nos vulnérabilités et nos blessures, c'est très 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 fort. Mais merci de l'avoir souligné.
Et alors, Talita, vous avez prononcé le mot que je voulais justement employer pour la conclusion de ce plateau. On pourra ensemble continuer à converser avec la salle. Si vous avez des questions, vous pourrez évidemment les poser à nos invités. Mais il y a cette question de la vulnérabilité. Le mot est peut-être préférable à celui de la souffrance, finalement, si je vous écoute. Et vous faites, vous, on en a discuté longuement ensemble, le lien avec la parabole des talents. Et je voudrais que vous nous racontiez ça m'a pas mal marqué, parce que finalement, dans la manière de faire fructifier ses talents, il y a aussi l'acceptation de notre vulnérabilité. Expliquez-nous.
Ok. Alors, je pense que les auditeurs connaissent la parabole des talents, où la lecture qui en est faite la plupart du temps, c'est quand même que nous devons... produire des talents en plus parce que notre droit de nous réjouir avec le maître en dépend. Et pour des personnes en situation de handicap, c'est souvent source de frustration cette parabole, parce que déjà celui qui a le plus de talents, il en reproduit le plus, et celui qui n'a qu'un talent, et très souvent des personnes en situation de handicap avec qui j'en ai parlé s'identifient à celui qui n'a qu'un talent, disent, et en plus nous, on est jeté dehors. Donc, cette lecture est très compliquée. Alors, du coup, nous avons fait avec des exégètes une recherche de comment est-ce qu'on peut le comprendre autrement. Et on en est venu à regarder ce mot « talanton ». Donc, en grec, « talanton », c'est d'abord une mesure de poids. C'est 90 kilos d'argent. C'est considérable. Hein. Si vous avez 5 talanta, ben vous avez 450 kilos d'argent à transporter. Ok, c'est de l'argent, donc ça vaut une fortune, mais c'est fichtrement lourd quand même à déplacer.
Ça, c'est un exercice pour Patrick. Voilà, déplacer, développer, tout ça, c'est les haltères, ça, c'est bien.
Alors, dans cette compréhension, dans notre compréhension des talents, souvent vus comme des capacités, des choses qu'on sait faire, des compétences, il manque cette dimension de lourdeur. Et alors j'ai fait cette suggestion de voir dans le talanton la vulnérabilité. Parce que je me dis que si on n'est pas vulnérable, on ne peut pas aimer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était Lévinas, mais je le reprends à mon compte. Si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas vulnérable, si vous n'êtes pas ouvert au toucher de l'autre, vous ne pouvez pas aimer. Donc la vulnérabilité, elle a quelque chose d'extrêmement riche parce qu'elle nous permet d'aimer, mais elle est aussi, quand même, Patrick, je pense que je peux dire que c'est parfois compliqué et lourd à porter. Et alors, ce qui est drôle, ou ce qui était renversant dans cette parabole, c'est que le moins vulnérable des trois serviteurs, celui qui n'a eu qu'un talent, un talent vulnérable, il a caché sa vulnérabilité sous terre. Il a fait comme s'il était tout puissant, qu'il n'était pas vulnérable du tout. Et là, quand le maître rentre, il n'est pas d'accord. Et le serviteur qui a caché sa vulnérabilité, il est mis dehors. En fait, il s'est mis dehors lui-même. Parce que quand on se ferme à sa vulnérabilité, quand on ferme la possibilité d'aimer, on se met hors jeu soi-même. On meurt. Et pourquoi on dit ça, Étienne, remettez-moi sur le bord.
Parce que justement, je trouvais que c'était intéressant d'évoquer la question de la vulnérabilité dans les talents et aussi cette question de vulnérabilité qui fait appel à l'autre, qui ne nous laisse pas seuls finalement face à notre talent. Et à travers justement le handisport et les Jeux paralympiques, on va assister justement à des binômes valides handicapés. On va assister à une forme d'interdépendance qui permettra de faire jaillir ses talents en acceptant la vulnérabilité. C'est comme ça que j'ai compris.
Très bien. Jacques, je souscris pleinement.
Bon, merci beaucoup à vous quatre pour cette première partie, Père François Audinet, Thierry Guazio, évidemment Patrick Talhomme et Talita. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention pour cette première partie. Je vous propose maintenant, si vous le souhaitez, eh bien voilà, de prendre un micro et de poser vos questions à nos invités. On a encore une bonne demi-heure pour converser avec nos quatre intervenants.
Oui, ça marche.
Voilà, n'hésitez pas à lever la main, à vous présenter et à poser vos questions. Sinon, moi, j'en ai encore. Alors, Thierry.
C'est pas vraiment une question, mais je voudrais revenir sur le thème de la souffrance qui m'a laissé un peu sur ma faim, mais pour le prendre d'une autre façon. Quand on est sportif, alors je ne suis pas au niveau de Patrick, mais j'essaie quand même d'honorer les compétitions auxquelles je participe. En triathlon, on a un slogan. Le slogan est le suivant. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait très bien que sur des efforts de longue durée, suite à des entraînements réguliers, on va inévitablement avoir mal. Ça fait partie de l'exercice. Tous les sportifs le diront, handicapés ou pas. En revanche, la souffrance, c'est la façon dont on accueille cette douleur et la capacité de résister à cette douleur pour atteindre un certain niveau de performance. Mais la performance dont on parle, c'est le combat contre soi. C'est le travail de préparation qui aboutit dans une compétition pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé, même si cet objectif est très en deçà des performances attendues. Voilà, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative.
Patrick ?
C'est une belle précision qui permet justement de pouvoir faire une belle distinction entre douleur et souffrance, parce qu'il y a la dimension corporelle effectivement qui va entrer en jeu, il y a une dimension maintenant psychique, psychologique qui va entrer en jeu, et je permets peut-être là de rebondir justement, parce que on va voir qu'il y a un très beau lien, ça veut dire que avec la dimension communion qui se joue. Déjà, quand on évoquait la question de l'Eucharistie, il y a la communion qui se joue, mais il y a la question de la discipline qui se joue également. Ça veut dire, c'est indéniable, il y aura une part de douleur physique. Je peux vous dire une chose, hier j'étais à la salle d'entraînement de développé couché, j'ai dû faire 3 rebars à 75 kilos, ça veut dire 3 fois, 5 fois, et je peux vous dire qu'en prenant ma voiture pour rentrer, les épaules ça chauffait. Et quand je suis rentré, la première chose que je fais, c'est d'aller dans mon frigo, de sortir le poulet qui était là, le riz que j'avais sauté la veille. J'ai mangé, je me suis couché et j'ai dormi direct. Ça dit pas besoin de somnifères. Ça marche à tous les coups. Donc, c'est sérieux. Pas besoin d'aller à la pharmacie. Donc, vous allez, vous faites du sport, vous rentrez, vous dormez bien. Alors, je voulais juste noter aussi que lorsque, en tant que personne en situation de handicap, j'ai besoin d'une discipline. Sans la discipline, je ne peux pas arriver. De la même manière, cette discipline, je peux la mettre en relation sur le plan théologique. Je peux aller chercher même avec les 10 commandements, parce que ça me permet aussi de pouvoir cheminer toujours dans l'appel. Donc oui, effectivement, cette question de douleur, souffrance, elle est très intéressante, et vous pouvez la creuser aussi, par exemple, avec Paul Ricoeur, qui dit des très belles choses sur cette notion. C'est ce que je peux ajouter.
Et alors, moi, je voudrais que vous nous expliquiez aussi, peut-être en réaction à cela, les valeurs paralympiques. Alors, on a regardé avec Patrick les différentes valeurs en fonction des fédérations. Alors, les valeurs olympiques, c'est amitié, respect, excellence. Les valeurs paralympiques, c'est détermination, égalité, inspiration et courage. Est-ce que ça veut dire qu'il vous en faut davantage ?
Déjà, j'étais très surpris aussi de voir qu'il y a une sorte de distinction. C'est-à-dire qu'on a 7 valeurs. Il y a des valeurs pour les Jeux olympiques, il y a des valeurs pour les paras. Je crois qu'il y a quelque chose de la communion qui ne se joue pas là. On doit avoir la même valeur pour tout le monde, quitte à ce que, c'est pour ça que parfois j'ai du mal avec le concept d'inclusion. Parce que qui dit inclusion déjà reconnaît qu'il y a exclusion. Je suis plus partant pour un nouveau paradigme qui puisse tourner autour de la communion, de la fraternité, parce que d'office dans la communion il y a une diversité. Mais quand j'ai dit inclusion, je reconnais déjà d'office qu'il y a un problème d'exclusion. Ça veut dire que sur le plan social, il faut retravailler cela. Alors, détermination, oui, on a besoin d'être déterminé. Courage, oui, on a besoin de courage. Amitié, on a besoin de courage. D'amitié. Je suis mal à l'aise du fait qu'on ait une dissociation. Je préfère des valeurs communes pour que chacun se retrouve à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à cela.
Est-ce que vous voulez réagir les uns les autres? Comment Talita me demandait quelle était la devise de Paralympique. C'est Spirit in Motion, esprit en mouvement. Voilà. Allez-y, n'hésitez pas à en profiter. Une question là-bas. Présentez-vous.
Bonjour, alors Antoine de Montchalin, je travaille pour Holy Games, la mission de l'Église autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Moi j'avais deux questions, l'une sur ce que vous venez de dire à l'instant, enfin qui à mon avis le rejoint. Je sais qu'il y a une question dans les mouvements sportifs qui pourrait être de lier les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Aujourd'hui il y a une distinction temporelle, il y a deux semaines entre les deux. Il y a des discussions, je crois, dans les fédérations internationales pour potentiellement créer une épreuve unique. C'est pas fait du tout, mais c'est une idée qui court. Donc je voulais vous faire réagir. Alors, je pense qu'il y a des éléments qui ont été dits sur la fin, mais je voulais vous faire réagir. Il y avait des plus et des moins dans les deux cas, des gens qui considéraient que si on faisait les valides et les personnes, si on faisait concourir les personnes valides et en situation de handicap en même temps, ça allait avoir moins de visibilité pour les deuxièmes, etc. Donc j'ai envie de vous faire réagir, de vous entendre là-dessus. La deuxième question que j'avais, qui n'a rien à voir, c'est Thierry, c'est ça, qui en parlait au tout début. Avec les personnes en situation de handicap mental, quand vous interagissez avec eux, avec elles, ces personnes, est-ce qu'elles peuvent vous dire des choses particulières sur le sport ou sur ce qu'elles ressentent? Enfin voilà, est-ce que vous avez pu être marqué par des discussions, des interactions? Merci.
Alors Thierry Legoisy, on va prendre les deux questions parce qu'elles sont presque toutes les deux pour vous. D'abord, est-ce qu'il faudrait faire concourir ensemble personnes valides et handicapées? C'est la question que vous posez.
On aurait une vision du sport qui serait équitable ou alors égalitaire. Et on sortirait du prisme de la performance stricte, qui est une façon de se mesurer et de se comparer. Après, les sportifs, je pense, ne sont pas prêts à ce genre de choses. Vous avez aux États-Unis des fédérations sportives masculines qui ont porté plainte contre des résultats sportifs d'athlètes transgenres qui concouraient dans les catégories masculines ou féminines selon leur transformation corporelle et psychique et qui ont été disqualifiés. Donc il y a tout un rapport aux capacités initiales réparties dans chacun des sportifs. Et pour mesurer une performance, il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes capacités de départ. Ceci dit, ça serait une approche du sport tout à fait différente. Et l'expérience, en tout cas, dans mon secteur d'activité le montre. Lorsque vous invitez à une instance quelconque une personne en situation de handicap mental, avec les outils méthodologiques adaptés, comme le facile à lire, à comprendre, ou des ordres du jour allégés, ou un mode d'expression différent, le contenu s'avère totalement décalé. Et les gens qui avaient des choses à dire ne disent pas la même chose et le disent différemment. Après, sur la deuxième question, si je peux me permettre, Étienne.
Moi, je voudrais relancer là-dessus. Est-ce que, justement, dans les équipes handisport, par exemple en rugby ou quelle que soit la discipline, on fait attention que les niveaux, justement, des sportifs handisport soient les mêmes? Parce qu'il peut y avoir une disparité. Dans une équipe de tel ou tel sport, les personnes handicapées n'ont pas forcément le même handicap ou le même degré de handicap. Comment est-ce qu'on mesure ça pour que les équipes soient opposables de manière... égal quoi.
Avant que Thierry ne rebondisse, je veux justement vous donner un détail sur le rugby footer que je pratique. Ça va vous scandaliser. Je préfère vous le dire dès le départ. Peut-être que mes collègues qui m'écouteront plus tard, ils vont me dire, Patrick, comment tu as pu dire ça? Mais la vérité, c'est que au rugby footer, nous sommes classés comme au basket. On va de 0.5 à 3.5. Alors, au départ, le sport, le rugby footer, est fait pour des tétraplégiques. Et les tétraplégiques ne veulent pas voir des paraplégiques en train de jouer ce sport. Parce que les paraplégiques sont des personnes qui ont beaucoup de force dans les bras et ils les empêchent de jouer. Ça, c'est déjà la bataille entre... J'aime souvent dire, moi et
c'est
mes collègues...
C'est vrai que vous avez des bons bras, là. Hein.
Oui, j'en ai quelque chose. Il y a de la mayonnaise, tiramisu, je peux vous rassurer. Voilà. Donc, voilà déjà un point de départ. C'est-à-dire, entre les personnes en situation de handicap, déjà, au sein du rugby fauteuil, on a une difficulté, c'est que les tétraplégiques n'acceptent pas forcément, parce que c'est une règle, parce qu'au départ, le sport était fait. Attention, l'intentionnalité au départ n'était pas mauvaise. Il faut qu'on comprenne très bien. Il n'y a pas une volonté d'exclure, mais il y avait une volonté de pouvoir créer un sport pour une catégorie qui était exclue. Mais sur le long terme, d'autres familles du handicap se sont intéressées à ce sport et il faut repenser les règles parce que les règles d'hier ne sont plus valables aujourd'hui au nom de l'égalité, au nom d'une approche de droit. Donc, il y a véritablement quelque chose qui se joue effectivement, pour voir dans quelle mesure on peut trouver le juste milieu qui est à la fois cette justice, cette équité, pour permettre que tout le monde se sente épanoui. C'est toujours très difficile de pouvoir partir sur une approche où on va mettre personne valide et personne invalide sur le même stade. Mais par contre, moi je serais partant pour une seule date pour les Jeux Olympiques. Tout simplement. Et au cours des Jeux Olympiques, on peut faire un départ de 100 mètres valide et après on fait un départ de 100 mètres de personnes en situation de handicap. On a le même public qui vit, par exemple, les mêmes éléments. Mais attention, il y a des enjeux économiques qui se jouent aussi à l'intérieur et c'est pas le thème de ce soir.
Alors, Thierry Le Guesdiou, la deuxième question que nous posait l'intervenant dans la salle, j'ai besoin de me rafraîchir. Antoine, de me rafraîchir la question, vous l'avez en tête ou est-ce que vous pouvez nous la redire peut-être? Oui.
Juste avant de répondre à votre question, ce qu'a dit Patrick, en fait, c'est la chose suivante. Le monde du handicap n'est pas homogène. Et le monde des valides cherche en permanence à le rendre homogène parce que normatif et classifiable. Ça n'est pas le cas. Le monde du handicap, comme tous les états sociaux existants, c'est un monde hétérogène, traversé par des conflits, des contrariétés, des divisions, des dualités, dans le sport comme ailleurs. Pour répondre à votre question, je voudrais juste faire un tout petit détour. C'est que si je fais de la théologie quand je ne suis pas manager, c'est que le point de départ de ma recherche était la vie intérieure des personnes handicapées mentales profondes. Et j'ai écrit 50 pages là-dessus. Et mon directeur de thèse m'a dit « C'est formidable, mais vous ne pourrez jamais le démontrer. Donc vous ne pouvez pas faire de thèse sur un tel sujet. » Du coup, j'ai inversé la démarche et je me suis demandé si je ne peux pas creuser et approfondir le sens de la vie intérieure des personnes handicapées mentales qui en ont certainement une, puisque créé à l'image et à la ressemblance divine, comment nous, on appréhende la réalité que eux puissent vivre. Et donc, mon travail, il est plutôt sur la représentation et le choc de la rencontre du handicap, qui est un choc basé sur le fait que cette rencontre de l'altérité n'est pas normative, et qu'on n'a pas les conditions de départ similaires permettant une éthique rationnelle, une éthique de la discussion compréhensible et accepté par l'ensemble des acteurs. On est d'emblée dans une relation asymétrique et on cherche en permanence à ramener cette asymétrie à une explication rationnelle et rassurante. D'où l'idée du trouble, qui est le sujet de mon travail, pour dire qu'en fait, on est nécessairement troublé par des rencontres intersubjectives décapantes que l'on n'arrive pas à maîtriser et qui échappent toujours à une forme de rationalisation.
Merci beaucoup. D'autres questions? Pardon, il y en a une là? Non, j'ai pas entendu. Non. Père François Audinet, je me posais la question. Vous travaillez, vous, dans le diocèse du Havre, auprès de personnes en situation de pauvreté. Est-ce que vous faites un lien entre les deux? Est-ce que justement le regard qu'on peut poser, parce que vous avez travaillé principalement sur le regard justement et sur le traitement médiatique de ces Jeux paralympiques, est-ce que le regard que l'on... Est-ce que c'est un risque, hein, plutôt? Est-ce que le risque serait de poser un regard sur le handicap comme on pose un regard sur la pauvreté? C'est-à-dire, c'est bien, il faut être généreux, il faut penser à eux, il faut... leur donner de la place, on va les aider, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable entre ces deux choses que vous connaissez, non?
Alors c'est sûr qu'à la base c'est pas exactement comparable. D'ailleurs il y a des personnes en situation de handicap qui sont pauvres et des personnes en situation de handicap qui ne sont pas, et il y a des pauvres qui sont valides et des pauvres, bon, etc. Donc c'est deux catégories hétérogènes et qui renvoient pas non plus aux mêmes expériences de vie. Bon. même si dans les deux cas, la dimension de combativité me semble quelque chose d'assez impressionnant, en fait. Voilà, bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est des catégories qu'il est facile de regarder de l'extérieur en faisant comme si c'était l'autre. C'est-à-dire comme si les personnes handicapées, c'était l'autre des personnes normales. Pardon de le dire comme ça, mais il y a ça derrière. C'est-à-dire, c'est toujours l'autre. De même que les personnes qui vivent la misère, c'est l'autre d'une vie normale. C'est le bord du monde, là-bas, voilà. Dans des zones que, de fait, la plupart des gens ne connaissent pas, au sens où même on n'en a pas idée, en fait. On n'en a même pas idée, voilà. Et puis, il y a aussi ce site commun que c'est toujours des gens qu'on veut aider, assister. Et ce qui est une manière de les objectiver, de les faire rentrer dans des cases. Les personnes qui connaissent la misère, elles disent combien les institutions sociales auxquelles elles font face passent leur temps à les mettre dans des cases dans lesquelles, en fait, elles ne rentrent pas. Bon. Alors, il me semble que ça, au moins, ça nous montre comment l'une et l'autre expérience, elles ont le mérite d'interroger ce qu'on considère comme normal, ça c'est sûr, mais aussi de nous inviter à considérer ce que ces personnes nous apportent, ce que ces personnes ont à donner. Ce qui n'est pas une manière de dire que c'est bon. C'est pas bon d'avoir un accident qui vous prive de l'usage de vos jambes en soi. Voyez, c'est pas heureux. C'est pas bon que des gens soient dans la misère. C'est même un scandale. C'est même contraire au dessein de Dieu. Mais la place que ces personnes tiennent dans un monde commun, c'est pas seulement une place où elles vont recevoir. C'est pas seulement une place où on va faire attention à elles. C'est une place où elles vont pouvoir donner ce qu'elles ont à donner, ce qu'on est tous appelés à faire. Alors là, il me semble qu'il y a quelque chose de parallèle dans notre grande difficulté à envisager que les personnes qui font l'expérience du handicap ou que les personnes qui connaissent la misère ont à donner quelque chose et que ce qui nous manque en premier, c'est pas tant notre capacité à leur donner que notre capacité à recevoir de ces personnes.
Patrick ?
Je crois que ça me pousse tout simplement à dire que si on regarde la devise des Jeux olympiques aujourd'hui, plus vite, plus haut, plus fort, et on se souvient que le père Didon, au moment où il pensait cela, plus vite dans le sens des études, plus haut par rapport à l'âme, plus fort par rapport au corps, j'ai envie de dire tout simplement effectivement que le monde de la fragilité, le monde de la pauvreté, le monde du handicap, bref, tout ce monde qui nous permet de nous voir comme êtres fragiles et vulnérables, nous permet peut-être de dire aujourd'hui à la lecture de sport et handicap aussi que pourquoi ne pas dire moins vite, plus bas et plus humble. Dans un monde de consumérisme, dans un monde où on veut toujours tout normer, dans un monde où on veut toujours mettre tout dans la même case, finalement, il y a quelque chose qui se dit là, moins vite. Moins vite pour être proche de ceux qui sont à côté de nous, de ceux qui sont fragiles, proche de l'humain. Plus bas parce que autour de nous, il y a des grandes pauvretés parfois qu'on n'arrive plus à voir. Et plus humble parce que même quand on est fort, avec du muscle physique, le fort c'est celui qui relève. Et ça, le handicap peut finalement arriver aussi à un raisonnement pareil, à la fois social, à la fois théologique, pour nous nourrir chacun.
Mais Patrick, quand vous faites un match, vous jouez un match de rugby fauteuil, vous avez envie de gagner, vous avez envie d'être le plus fort, vous avez envie d'aller le plus haut. Est-ce que ça signifierait alors que gagner aux Jeux paralympiques ou gagner dans le sport quand on est une personne en situation de handicap, ça n'a pas le même sens, quoi, que finalement une personne valide, voilà.
J'ai toujours dit et je le redirai toujours à fond, la première victoire était la victoire au plus profond de moi-même. Tout à l'heure, Thierry parlait de l'intériorité. Le premier combat, c'était là-bas. Pouvoir accepter que mon corps ne peut plus être le même corps et que c'est avec ce corps que je veux vivre encore sur cette planète Terre, je ne sais pas pour combien de temps. C'était la première victoire. La deuxième victoire, c'était aussi maintenant la victoire face au regard des autres. Et moi, j'ai eu cette belle chance que ma famille m'a tellement aimé dans mon état que j'ai compris que j'existais encore. Et ma famille a opéré quelque chose, c'est de pardonner au chauffeur qui m'a rendu dans cet état. Et je me souviens un jour dans une conférence, une dame qui s'est levée en se disant « Non, pourquoi vous l'avez pardonné? Il vous a détruit votre corps. Vous ne marcherez plus jamais. » J'ai senti qu'il y avait quelque chose de violent parce qu'en fait, ce n'était pas de moi qu'elle parlait. Elle parlait d'une blessure qui n'est pas cicatrisée en elle. Et ensuite,
Ça, tu l'as dit, quand je joue un match, je fais tout pour que mes coéquipiers puissent gagner. Mais le goût de la victoire ici, ce n'est pas un goût de la victoire où on écrase les autres. Et au rugby, on dit toujours qu'il y a la troisième mi-temps. À la fin, il faut se voir quelque part, il faut festoyer ensemble avec l'adversaire. L'adversaire n'est plus celui sur qui on impose quelque chose de violent, mais c'est celui avec qui on s'est mis en compétition, mais on s'est mis en compétition pour se réaliser. Et la victoire en ce moment, ça prend un goût différent. C'est vraiment la guerre dans le sens positif du terme, où on tue ce qu'il y a de négatif et on laisse jaillir ce qu'il y a de positif. Et à la fin, c'est le meilleur qui a gagné parce qu'il a un talent peut-être différent, il a une capacité peut-être différente. Et je le rappelle encore avec ce que Thierry a dit, dans la manière dont il aborde son thème de thèse de doctorat, à un moment, il faut avoir l'humilité de se taire. Parce qu'on ne peut pas accéder à la totalité de ce qui est là. Mais la belle victoire, c'est la victoire de la communion. Et ça n'exclut pas qu'on soit le meilleur avec un salaire énorme.
Thierry Le Guazio.
Oui.
La troisième mi-temps approche.
Patrick a évoqué une notion très importante qui, à mon avis, est essentielle dans notre débat de ce soir. C'est la notion d'acceptation. Et on peut, à ce titre, se souvenir de la définition du courage que donne Paul Tillich. Le courage, c'est accepter d'être accepté, même si l'on se sent inacceptable. Alors certes, c'est relié à des considérations théologiques de haut niveau, mais l'acceptation, c'est une forme d'humilité qui consiste à voir les choses telles qu'elles sont, ni les nier, ni les amplifier, qu'on soit handicapé ou pas, sportif ou pas, en reconnaissant en chacun la part d'humanité. Voilà. Accepter d'être accepté, même si l'on se sent inacceptable. Ce qu'a dit Patrick sur le pardon s'inscrit, à mon sens, dans cette vision du monde.
Une question ici. Madame, n'hésitez pas à vous présenter.
Bonjour, Caroline Arlet. Moi, j'ai abordé le handicap avec foi et lumière. Et j'ai deux questions. Patrick, est-ce que vous savez parler de la providence aux personnes devant qui vous témoignez ? Et ma deuxième question est pour le Père François. Vous parliez de téléspectateurs. Comment est-ce que vous abordez le téléspectateur handicapé?
Alors, Patrick.
Alors, pour répondre à cette question, en décembre dernier, j'étais sur le Cameroun. J'ai donné une conférence dans un centre pour personnes en situation de handicap. Et là, on avait des mamans qui avaient des enfants en situation de handicap. Et on leur disait... C'est vraiment important, vous devez revenir au centre avec vos enfants parce que vous devez pas rater les séances d'ergothérapie. Voilà, il y avait tout ce discours. Et à un moment, il y a une maman qui prend le micro et qui dit, mais je peux pas venir aux séances tout le temps. Je ne peux pas. Ce que vous dites, vous avez raison. Il faut venir. Mais je ne peux pas. Parce que j'ai ce petit-fils qui est en situation de handicap, mais j'ai un autre fils qui a une situation également, qui a un handicap mental. Et parfois, il sort de la maison, on ne sait pas où il est parti. Et elle me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse en ce moment? Dites-moi, donnez-moi un conseil. Et je lui ai dit, maman, je ne peux que me taire. La providence. Comment elle viendra à votre secours, je ne saurais vous le dire. Je ne peux que vous me taire et vous dire une chose. Je ne vous connais pas, mais je vous aime et je veux prier pour vous. Là, c'est ma foi qui a parlé. Mais attention, c'est un discours très complexe, surtout dans le contexte français, avec la notion de laïcité. Je rencontre pas mal de personnes et la notion de providence, il faut trouver le mot juste pour pouvoir en parler. J'en parle énormément.
François Audinet, sur la question sur justement ces Jeux paralympiques qui vont être regardés par des personnes valides, par des personnes handicapées. Pour ces personnes en situation de handicap, est-ce qu'il n'y a pas un double risque quoi, de faire rêver démesurément des jeunes qui pourraient rêver de devenir des footballeurs paralympiques et à contrario, finalement, tellement on pourrait magnifier le sportif handicapé, ça pourrait faire fuir aussi ces personnes qui sont conscientes que ce n'est pas accessible à tous.
Alors, comme vous l'avez dit, Étienne, moi je travaille en théologie, en alliance un peu avec des personnes qui connaissent la misère. Une des choses essentielles pour moi, c'est de ne pas parler à leur place, mais d'essayer d'écouter ce qu'elles disent. Donc, je n'ai pas interrogé de spectateurs en situation de handicap, donc je ne vais pas répondre à cette question. En revanche, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a intéressé là pour préparer cette réflexion, c'est la mise en récit, la manière dont les choses sont montrées, à travers des récits médiatiques, voilà, et un récit de la performance, etc. Ce qui est sûr, c'est que la mise en récit, elle est pensée sur le prisme de la validité. Ça, ça me semble très clair. La manière dont la performance est montrée, quand je regarde des extraits de séquences de Jeux paralympiques précédents, clairement, c'est les canons de la monstration des corps valides. Voilà. Ça, c'est la mise en récit. Ce que ça peut faire à des spectateurs en situation de handicap, il faut le leur demander.
Allez, Talita, le mot de la fin.
On aura une dernière question aussi, brièvement.
Je voudrais juste rebondir là-dessus. Moi, j'en ai parlé avec des personnes en situation de handicap sur qu'est-ce que ça provoque chez vous. Et je pense que c'est très double. Alors, je ne sais pas quelle est votre expérience à Foi et Lumière, mais j'ai des personnes qui m'ont dit, mais c'est très bien, c'est chouette. Enfin, on voit des gens qui nous ressemblent et donc allons-y très fortement. Et puis d'autres qui disent, ouais, mais à force de montrer toujours les héros du handicap, ben, on oublie ceux qui, pour qui ça, c'est complètement inatteignable. Mais il y a les deux. Et quand je vois maintenant toute la mouvance autour du body positive ou la disability pride, où les personnes en situation de handicap sortent de leur cachette, si j'ose dire, et se montrent telles qu'elles sont, sans honte, en disant « mais je suis fière du corps que j'ai ». Vestiaire, je trouvais un exemple très parlant. Vous connaissez peut-être la série télé où on a des personnes en situation de handicap en maillot de bain dans les vestiaires d'une piscine, montre quand même que ces corps deviennent plus acceptables, si j'ose dire, dans la sphère publique. Est-ce que, en tant que valide, on est frustré parce que Usain Bolt court les 100 mètres en moins de 10 secondes? Ben, je vais dire, à chaque fois, j'y pense pas quand je cours pour mon train. Je veux dire, je pense que ce qui c'est peut-être vraiment une non-question. Et je voudrais pas. La plupart des para-athlètes, alors j'en connais que trois, mais bon, les trois ont dit ça, veulent la même attention médiatique pour leur sport que pour les autres sports. Je ne connais pas de para-athlète qui dit vivement qu'il n'y ait personne.
Allez, une dernière question.
Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Doilan. Je suis un étudiant à l'Institut catholique de Paris. Et excusez-moi, vous pourriez me rappeler votre nom, s'il vous plaît ?
Patrick.
Oui, Patrick. Vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, d'une situation quand vous êtes allé au Cameroun. C'était dans quel but ? C'était pour aider des gens ou quelque chose de spécial ?
Tout simplement parce que après mes études, j'ai choisi de partager mon expérience à la fois à la France et à l'international. Et je travaille beaucoup sur le continent africain à impulser des nouvelles approches du handicap qui sortent très souvent du schéma de la mendicité qui a été longuement prôné comme un modèle à suivre. Merci.
Allez, merci beaucoup à tous les quatre, Patrick, Talita, Thierry et François, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à tous d'avoir été ici. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rcf.fr. Merci et bonsoir à tous.
Voilà, et merci de vous d'être venu ce soir donc aux facultés Loyola Paris. Et donc je passe le flambeau à l'Institut catholique, à Anne-Sophie Vivier-Moréchan pour la troisième soirée de théologie du programme Holy Games. À bientôt.
Merci beaucoup.